BW. Droits et libertés.
La base pour être citoyen, c'est d'être propriétaire de son propre corps. Notre corps n'appartient ni à nos pères, ni à nos maris, ni à la rue, ni à l'État. Notre corps appartient à nous. Voilà ce que déclare l'écrivaine Leïla Slimani, co-initiatrice d'un appel d'intellectuels marocains à leurs concitoyens, hommes et femmes, pour les inciter à se libérer du joug de certaines traditions qui entravent leur liberté sexuelle. Et puis ensuite, on ira faire un tour en Suède, où désormais il y a plus de prêtres femmes que de prêtres hommes. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous.
On veut l'ouverture d'un grand débat sur les libertés individuelles. On demande aux législateurs, on demande à nos gouvernants et de manière générale à toutes les forces progressistes de ce pays, à tous ceux qui ont envie de faire bouger les choses, de se mettre à notre côté pour qu'un grand débat ait lieu sur les libertés individuelles, sur la dépénalisation de la sexualité de manière générale et pour la légalisation de l'avortement, pour que cessent les drames des avortements clandestins et pour qu'il n'y ait plus de gens en prison à cause de l'adultère ou parce qu'ils ont eu des relations sexuelles.
Le grand problème, c'est le silence, dit aussi Leïla Slimani dans cette interview diffusée par une télévision française. Et ce silence, plusieurs intellectuels marocains, parmi lesquels l'écrivaine donc, veulent le briser. Ils en appellent à leurs concitoyens et concitoyennes qu'ils incitent à devenir hors la loi, s'il le faut, à ne plus se plier à des lois qui ne sont plus en accord, selon eux, avec leur façon de vivre dans le Maroc de 2020. Les intellectuels marocains espèrent initier un mouvement de masse qui pourra amener des réformes pour rassembler les témoignages de dizaines de milliers de hors-la-loi. Ils recourent donc notamment aux réseaux sociaux.
J'ai payé 300 euros pour avoir des médicaments pour avorter. Des fois, ils réclament même plus de 800 euros, alors que ces médicaments coûtent moins cher que ça. L'avortement, c'est un vrai business au Maroc.
J'étais en voiture avec ma sœur. La police nous a arrêtés. Comme ma sœur a été adoptée, elle n'a pas le même nom que moi dans son passeport. Elle ne voulait pas que la police appelle nos parents. Alors, on a dû payer pour qu'ils nous laissent partir.
J'ai avorté 3 fois. J'ai une copine qui est enceinte, mais qui ne peut pas se le permettre.
Ces témoignages ne sont que quelques exemples parmi des dizaines de milliers d'autres recueillis sur les pages de Hors la Loi, sur Facebook, Twitter, Instagram, des témoignages qui sont le plus souvent anonymes.
C'était le matin, j'étais sur la plage avec mon copain, il me tenait dans ses bras. On s'est juste pris dans les bras et la police est arrivée, elle nous a emmenés au poste pour 24 heures.
Il y a 2 semaines, j'ai fait une fausse couche. Je suis allée dans la meilleure clinique de Casablanca pour me faire soigner. Ils ont refusé de m'examiner parce que je n'avais pas mon certificat de mariage sur moi.
Les traditions anciennes ne vont pas toujours de pair avec la réalité du Maroc du 21e siècle. C'est ce que constate Sonia Terrab, journaliste qui a elle aussi participé à l'appel des hors-la-loi. Elle dénonce le fait que le code pénal marocain continue de criminaliser des actes qui sont devenus répandus dans la société actuelle, comme le sexe avant le mariage.
Être hors-la-loi, c'est dire... Nous, les Marocains, on a aussi avorté, on a aussi eu des relations sexuelles hors mariage. Et l'idée, c'était de pointer vraiment l'hypocrisie sociale qui génère tant de violences et de tragédies. Changer la loi, annuler les lois qui pénalisent les relations sexuelles hors mariage, l'avortement, ainsi que toutes les lois qui pénalisent les libertés individuelles en général, même celles qui concernent la communauté LGBT.
Collectif 490, c'est le nom que se sont donné les initiateurs de l'appel. Leur groupe s'est créé fin 2019. Ce nom se réfère au paragraphe du code pénal marocain qui punit les relations sexuelles hors mariage. Sonia Terrab explique que ce collectif s'adresse d'abord aux jeunes qu'il espère bien politiser.
On leur a dit, vous pouvez pas tomber amoureux si vous faites violer et vous tombez enceinte, mais vous risquez de vous retrouver en prison pour relations sexuelles hors mariage, etc. etc. Et ça, c'est des choses qu'ils vivent au quotidien. C'est-à-dire, énormément de jeunes, n'importe qui au Maroc aujourd'hui, vous allez lui demander s'il s'est déjà fait arrêter ou déjà fait embêter par un flic parce qu'il était en couple, ou si voilà, il a déjà été complice d'un avortement ou eu un avortement, tout le monde dira oui.
Ce type d'histoire, les journaux marocains en regorgent. L'arrestation de la journaliste Hajar Raissouni avait défrayé la chronique. Elle avait été interpellée par la police après une consultation chez un gynécologue. Elle a été jugée et condamnée pour avoir avorté clandestinement et pour avoir couché avec son petit ami, qui n'était donc pas son mari. Ce cas a eu beaucoup de retentissement au Maroc. C'est même lui qui a été le déclencheur de la fondation du collectif 490. Karima Nadir, journaliste, est également membre fondatrice de ce mouvement.
Justement, on voulait dire une sorte de « ça suffit, il y en a marre, cette affaire ne va pas passer comme bien d'autres se passent tous les jours par centaines et par milliers, et les chiffres le prouvent, des chiffres officiels d'ailleurs. Donc nous voulions que ce soit un cri pour dire « stop ».
Karima Nadir se réjouit de l'écho qu'ont eu les hors-la-loi du Maroc. Elle estime que c'est grâce aux pressions internationales que la journaliste Hajar Raissouni a fini par être graciée par le roi Mohamed VI. Maintenant, le mouvement fait circuler des pétitions pour que le Parlement débatte d'une abrogation du paragraphe 490 et qu'enfin l'avortement ou le sexe hors mariage ne soit plus puni par la loi. Des milliers de personnes ont déjà signé ces pétitions, mais toute la société marocaine n'est pas prête, bien sûr, à remettre en cause ces valeurs-là.
Le changement des textes de loi est jouable sur un moyen terme, avec de la pression, avec du lobbying. Celui des mentalités va nécessiter par contre des efforts sur plusieurs fronts, un renforcement de l'éducation par une éducation sexuelle, plus de débats et de débats ouverts sur les médias publics et sur la place publique autour des libertés individuelles pour que cette cause et ce sujet sortent de la grille des tabous et deviennent un sujet du quotidien.
Comme je vous le disais tout à l'heure, le collectif insiste sur le quotidien. Tous les jours, la presse évoque des nourrissons abandonnés à la naissance dans des tas d'ordures par des mères désespérées. Des centaines de Marocaines avortent clandestinement, ce qui est très dangereux pour leur santé et pour leur grossesse future. Or, il y a un autre tabou de poids dans la société du Maroc, autre que l'interruption de grossesse, ce sont les grossesses hors mariage. Une femme qui tombe enceinte sans être mariée est discréditée et son enfant aussi est stigmatisé durant toute sa vie. Les femmes pauvres des campagnes et celles issues des minorités sont le plus victimes de ces préjugés. Les riches peuvent s'acheter une liberté, les pauvres pas. Et ce sont ces inégalités aussi que Sonia Terab et le reste du collectif 490 entendent combattre.
Peut-être que ces jeunes femmes et ces jeunes hommes, demain, dans le futur, ces nouvelles générations, grandiront dans un Maroc où ils n'auront pas cette épée de Damoclès sur la tête et petit à petit, ils éduqueront aussi leurs enfants d'une autre manière. Ça veut dire que les générations futures, pas cette génération-là qui a contribué à changer la loi, mais les générations futures, leurs enfants, grandiront dans un Maroc où déjà il n'y a plus l'État qui rentre dans ta chambre à coucher, il n'y a plus l'État qui a ce pouvoir sur toi.
Vous écoutez toujours Droits et Libertés sur les ondes de la DW. On change totalement de décor, mais on reste un petit peu dans la thématique. En Suède, pour la première fois, il y a plus de femmes prêtres que d'hommes. Ça fait 60 ans maintenant que les premières femmes ont été ordonnées pour rejoindre le clergé de l'église luthérienne suédoise, une église protestante donc. Sur 3060 prêtres d'aujourd'hui, 1533 sont des femmes, c'est ce que confirme Christina Grenholm. Elle est secrétaire de l'Église de Suède et elle se réjouit que la parité soit arrivée finalement plus vite que ce qu'elle aurait imaginé à ses débuts. Elle raconte qu'en 1990, un rapport estimait que la part des femmes dans le clergé suédois ne représenterait la moitié des prêtres qu'en 2090. Ça n'a finalement pris que 30 ans.
I remember.
Je me souviens être venue pour célébrer un mariage dans une église où je ne servais pas normalement. Et toutes les armoires étaient fermées à clé. Je ne pouvais pas entrer, on voulait m'empêcher d'avoir accès aux vêtements liturgiques ou à quoi que ce soit. Donc, quand vous viviez à cette époque, il était difficile d'imaginer que nous, les femmes, composerions un jour la moitié du clergé.
En 1982, le Parlement suédois a voté une loi qui supprimait la clause de conscience, une clause qui permettait aux prêtres de refuser toute collaboration avec une femme, Elisabeth Åberg Hansen, prêtre depuis plus de 30 ans.
Dans tous les secteurs de la société, jusqu'à l'université, les femmes sont majoritaires. Il y a plus d'étudiantes que d'étudiants. Donc je pense que la prêtrise est simplement un miroir de notre société. Moi, en tout cas, je suis fière d'appartenir à une église qui permet aux femmes de devenir prêtres.
Mais en dépit de cette parité atteinte, l'écart de salaire entre les prêtres hommes et femmes demeure en moyenne de 2200 couronnes suédoises, soit environ 215 euros par mois, selon un journal spécialisé cité par l'agence France Presse. Cela s'explique notamment par le fait que les hommes sont toujours plus hauts dans la hiérarchie du clergé que les femmes. Et puis pour finir, si la Suède a été classée à la première place en 2019 au classement européen de l'égalité entre les sexes, Anna Inghammer, encore en formation avant de devenir prêtre, aimerait, elle, voir changer les choses dans deux autres domaines aussi.
Of course. Bien sûr, c'est bien qu'il y ait tant de femmes, mais il faut aussi une plus grande diversité des appartenances ethniques et des différentes classes sociales. Parce que parfois, vous pouvez prêcher dans une église de la classe moyenne, alors il faut que les gens de la classe moyenne deviennent prêtres aussi. Eux aussi vont aux offices le dimanche. C'est une chose sur laquelle nous devons travailler. L'église est pour tous ceux qui le souhaitent.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Dunia Sadaki pour les sons du Maroc. Pour podcaster Droits et Libertés, rendez-vous sur notre site internet www.com/français. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.